Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Il a donc fallu plus de 230 ans pour que la Cour suprême des États-Unis accueille une femme noire. Ketanji Brown Jackson rejoint la plus haute instance judiciaire. Une nomination, on peut employer le mot, historique. Hello everyone. J'avais commencé à préparer une lettre sur Joe Biden et sa gestion de l'Ukraine. Je voulais parler à nouveau de la guerre en Ukraine, car comme beaucoup d'entre vous, cette guerre occupe pas mal mes pensées. Et puis, au bout d'une heure de réflexion et de quelques recherches, je me suis dit que je n'allais pas apporter grand-chose de plus cette semaine par rapport à ce que vous pouvez entendre sur RTL ou sur d'autres médias. Ou alors, je n'ai pas trouvé quoi dire. En tout cas, j'ai donc choisi de plutôt évoquer la nomination de Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême, parce qu'une nomination à la Cour suprême, c'est toujours un événement aux États-Unis, et parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, alors surtout hors des États-Unis, bien sûr, la priorité allant logiquement à la guerre en Ukraine et à l'élection présidentielle en France. Je voulais d'ailleurs évoquer le regard des Américains sur la France, mais ce sera peut-être plus logique de le faire la semaine prochaine, avant le deuxième tour. Au moment où j'enregistre cette lettre, on a appris il y a 3 heures environ que le deuxième tour allait opposer, comme les sondages l'annonçaient, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et pour la première fois de ma vie, je suis allé voter donc à New York, à l'étranger. C'est un sentiment assez étrange, surtout que, en tout cas aux États-Unis, vous votez la veille. Une parenthèse d'ailleurs, je suis allé pour RTL faire un reportage pour voir si les Américains avaient un avis sur la campagne présidentielle en France. Alors, je n'allais pas les interroger sur les programmes, hein, je me doutais bien qu'ils s'en moquent un peu. Donc, j'ai fait quelque chose d'assez facile, mais qui fonctionne toujours. J'ai montré les photos des candidats, et c'est vrai que c'était assez marrant. Par exemple, quand j'ai montré la photo de Anne
She
Hidalgo,
does
j'ai
look
eu droit
familiar.
à
Is she the current president?
c'est l'actuelle présidente, ou en montrant la photo d'Emmanuel Macron.
See the
Ouais,
Canadian.
mais c'est le Canadien. Confusion avec Justin Trudeau. Bon, en fait, si on faisait aussi le même test en France, hein, sur le personnel politique américain, on n'aurait sans doute pas de grands résultats, à part Joe Biden, bien sûr, mais le président américain, c'est une figure mondiale, et peut-être Kamala Harris, mais bon, une photo d'Eric Adams, pardon, le maire de New York, par exemple, ou de Mitch McConnell, le leader des sénateurs républicains, ça n'aurait sans doute pas beaucoup de succès. Alors, on en revient donc à Ketanji Brown Jackson. Sa nomination est historique, je vous l'ai dit. J'aime pas employer ce mot parce que il est assez galvaudé et puis on l'emploie un peu à tort et à travers, mais là en l'occurrence ça l'est à plus d'un titre. Sur les 115 juges qui ont siégé jusqu'à présent à la Cour suprême, eh bien, il n'y a eu que 5 femmes, 4 femmes blanches et une hispanique. C'est donc la première femme noire à y siéger. Et d'ailleurs, c'est seulement le troisième juge afro-américain après Thurgood Marshall nommé en 1967. Et Clarence Thomas, qui lui avait été nommé par George Bush père. Ce qui est amusant, c'est que Ketanji Brown Jackson a été assistante, c'est-à-dire Claire, il y a une vingtaine d'années, de celui qu'elle va remplacer, Stephen Breyer, 83 ans, qui prend sa retraite. Il sera à la retraite officiellement au mois de juin. La retraite d'un juge à la Cour suprême, c'est sans doute la retraite d'ailleurs la plus scrutée du pays, hein, parce qu'elle peut modifier l'équilibre de la Cour suprême. En effet, les juges sont nommés à vie et ils décident du moment de leur départ. Vous vous souvenez sans doute de Ruth Bader Ginsburg qui est décédée quelques semaines seulement avant l'élection présidentielle. Elle était malade depuis de nombreuses années, mais elle n'avait pas voulu partir, c'était son droit d'ailleurs. Et comme c'était une personne très respectée, très respectable, il n'y avait jamais eu de critique frontale, mais en coulisses, beaucoup lui reprocher cette obstination, en tout cas dans le camp démocrate, puisqu'elle a permis à Donald Trump de nommer un troisième juge au cours de son mandat, en l'occurrence Amy Coney Barrett, ce qui est très rare hein, de nommer trois juges en seulement 4 ans, et ça a permis de changer l'équilibre de la Cour suprême, puisqu'il y a désormais 6 juges conservateurs et 3 libéraux, et la nomination de Ketanji Brown Jackson ne changera rien, puisque c'est une libérale qui remplace un libéral. Si Stephen Breyer prend sa retraite maintenant, alors on peut estimer que c'est parce qu'il en a marre, qu'à 83 ans, il a envie de profiter de sa retraite. C'est aussi une décision politique, évidemment. Dans quelques mois, il y a les midterms, les élections législatives de mi-mandat. Rien n'est fait, bien sûr, mais il n'est pas impossible que les démocrates perdent le contrôle du Sénat. Et comme c'est le Sénat qui valide les nominations à la Cour suprême, eh bien, ça donnerait un avantage, un nouvel avantage au camp républicain. Encore plus si Stephen Breyer devait être remplacé sous une prochaine mandature, sous présidence républicaine. En prenant sa retraite maintenant, il sécurise en quelque sorte ce troisième juge, ce troisième poste pour un juge libéral. Alors parce qu'il y a eu quatre nominations en 5 ans, hein, c'est un rythme inhabituel. Après la confirmation de Breyer en 1994, il s'était passé 11 ans avant l'arrivée d'un nouveau juge. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui va se passer désormais, puisque le juge Clarence Thomas, qui a 73 ans, est désormais le plus âgé. Il a donc potentiellement le temps, au moins une dizaine d'années, s'il veut, pour reprendre sa retraite. Pour rappel, la Cour suprême, on l'évoquera à la fin, mais tranche sur toutes les grandes décisions de la vie quotidienne aux États-Unis, tout ce qui est en rapport avec la Constitution, avec les plus grandes thématiques comme le port d'armes, le droit à l'avortement ou bien les élections. Une petite présentation de Ketanji Brown Jackson. Elle a 51 ans. Elle est diplômée de Harvard. Elle a été avocate et juge fédérale avant d'être nommée à la cour d'appel du circuit de Columbia, du district de Columbia. Et c'est une fonction très prestigieuse dans le pays, dans l'institution judiciaire américaine. D'ailleurs, 6 des 14 derniers juges de la Cour suprême en sont issus. Cette cour d'appel est considérée tout simplement comme la deuxième institution judiciaire du pays, la deuxième plus importante. C'est pour simplifier très grossièrement comme un super tribunal administratif. Si les Américains ont un souci avec une agence gouvernementale, avec la législation fédérale, c'est cette instance qui va s'en occuper. Comme beaucoup d'agences ont leur siège à Washington, le circuit de Washington DC s'est spécialisé dans ce genre de procès. Du point de vue de ses convictions juridiques, car même si un juge à la Cour suprême est censé être neutre, il y a forcément des convictions intimes et judiciaires, Ketanji Brown Jackson serait moins libéral que celui qu'elle remplace. Pour Stephen Breyer, la Constitution est un texte vivant qui évolue. On ne peut pas considérer uniquement l'intention initiale, celle des pères fondateurs, puisque la société change. Celle qui lui succède accorderait beaucoup plus d'importance au texte, comme la majorité des juges de la Cour suprême. D'ailleurs, elle ne sera pas donc cette dangereuse gauchiste dénoncée par ses adversaires. En nommant Ketanji Brown Jackson, Joe Biden tient une promesse de campagne importante, nommer une femme noire à la Cour suprême, une promesse qu'il avait faite en début de campagne alors qu'il était en très mauvaise posture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais son début avait été très compliqué. Ça lui avait permis de mobiliser l'électorat afro-américain, notamment en Caroline du Sud, et de renverser la tendance jusqu'à obtenir l'investiture démocrate et donc de gagner l'élection face à Donald Trump. On verra si ça lui permet de regagner les faveurs de l'électorat afro-américain. Mais en tout cas, même s'il reste en majorité démocrate, les Afro-Américains sont détachés de Joe Biden depuis son accession à la Maison-Blanche. Ils sont déçus. Ils estiment notamment qu'il n'en fait pas assez pour eux. Et puis, il y a eu aussi quelques maladresses pendant la campagne, comme son fameux « Vous n'êtes pas noir si vous envisagez de voter Trump ». Et du coup, il n'y a pas un gros engouement envers Joe Biden pour cette communauté. En tout cas, cette nomination a confirmé tous les enjeux qui l'entourent et toute la violence qui peut accompagner ce processus de confirmation au Sénat. Alors là, je vous parle évidemment aujourd'hui de la confirmation de Ketanji Brown Jackson, mais les juges conservateurs précédents n'ont pas été épargnés non plus hein, par les démocrates, que ce soit Brett Kavanaugh ou Amy Coney Barrett. Une sénatrice démocrate avait par exemple dit à Amy Coney Barrett: votre foi est un dogme qui vit bruyamment en vous et c'est une préoccupation. Alors, les nominations sont devenues une tribune politique, hein, et ici, en tout cas cette année, une tribune politique avant les élections du mois de novembre. Au final, Ketanji Brown Jackson a été confirmé par 53 voix contre 47. Trois sénateurs républicains se sont joints au vote démocrate, Mitt Romney. pour l'Utah, Susan Collins, sénatrice du Maine, et Lisa Murkowski pour l'Alaska, des sénateurs qui sont traditionnellement à la gauche du Parti républicain. Mais globalement, ce processus de confirmation a été très polarisé. Sur le site du Sénat, vous pouvez voir les précédents votes pour les candidats à la Cour suprême, et il a pu y avoir des confirmations très largement bipartisanes. Par exemple, le juge Breyer, qui prend sa retraite, donc avait reçu 87 voix. Sandra O'Connor, qui a été la première femme à entrer à la Cour suprême en 1981, avait eu 99 voix en sa faveur. Et désormais, c'est devenu autre chose. Certains sénateurs votent contre par conviction, car ils sont persuadés que la conception du droit du nouveau juge n'est pas bonne pour la société américaine. Et il y a d'autres sénateurs qui votent contre par principe, parce que ce n'est pas le ou la juge choisi par leur président et par leur camp. La ligne générale du Parti républicain a donc été de s'opposer constamment. Quelques exemples avec Tom Cotton de l'Arkansas, qui a évoqué une juge dangereuse qui, je cite, dorlotera les criminels et les terroristes. De son côté, Ted Cruz l'a accusé d'avoir, tout au long de sa carrière, milité pour les prédateurs sexuels et retenu des peines inférieures aux réquisitions dans 100% des dossiers de pédopornographie, ce qui a été démontré comme étant factuellement faux. Le sénateur Josh Hawley est aussi allé sur ce terrain, et d'ailleurs ça a trouvé un écho auprès des théoriciens du complot qui pensent que les démocrates, notamment QAnon, que les démocrates sont impliqués dans des réseaux pédophiles de trafic sexuel d'enfants. Et pour terminer, pour vous montrer à quel point ça a été parfois assez violent, la représentante Marjorie Taylor Greene, qui elle n'était pas au Sénat, puisqu'elle est à la Chambre des représentants, mais elle s'est exprimée là-dessus, et avec son sens de la nuance qui la caractérise, elle a déclaré que tout sénateur qui soutient la nomination de Jackson est en fait un pro-pédophile. Ketanji Brown Jackson sera donc aux prises avec des questions sociétales et politiques très sensibles, hein, comme le droit à l'avortement, qui est en pleine régression en ce moment aux États-Unis, les droits des minorités ou bien encore les redécoupages des circonscriptions électorales. Parmi les grands dossiers du moment, vous avez par exemple en Floride le gouverneur qui a signé une loi interdisant l'enseignement de tout ce qui concerne l'orientation sexuelle ou l'identité de genre à l'école primaire, et ce, à partir du 1er juillet prochain. Une loi surnommée par ses adversaires Don't Say Gay, ne parlait pas des gays. Et puis, c'est aussi une année où l'avortement sera le grand dossier de la Cour suprême. Il y a des tentatives de restriction dans 46 des 50 États. En Oklahoma, très récemment, un projet de loi est passé interdisant l'avortement, sauf pour sauver la vie de la mère, mais interdit en cas de viol ou d'inceste. Et d'ailleurs, tout médecin, infirmier ou personnel de santé qui pratiquerait une IVG est passible de 10 ans de prison et de 100 000 dollars d'amende. La société américaine est de plus en plus polarisée. Les décisions de la Cour suprême risquent d'être appréciées, quelles qu'elles soient, en termes politiques et en termes partisans. On aura l'occasion d'en reparler en tout cas, mais cette semaine, il s'agissait donc de vous montrer, de vous présenter la dernière des 9 juges à la Cour suprême, la première femme noire pour la plus haute institution judiciaire des États-Unis. Il y a eu une cérémonie vendredi dernier à la Maison-Blanche en présence de Joe Biden et Kamala Harris, et je vous propose d'écouter un court extrait du discours de Ketanji Brown Jackson où elle parle. Très ému, vous allez l'entendre dans sa voix, de ce que représente sa nomination pour elle, mais aussi pour les femmes et les Afro-Américains.
It has taken 232 years and 115 prior appointments for a black woman to be selected to serve on the Supreme Court.
Il a fallu 232 ans et 115 juges pour qu'une femme noire soit choisie pour servir à la Cour suprême des États-Unis, mais on l'a fait. Ce que l'on voit plus que jamais aux États-Unis, c'est que tout est possible. Dans ma famille, il a fallu qu'une génération pour passer de la ségrégation à la Cour suprême.
Voilà, c'est donc seulement la sixième femme à siéger à la Cour suprême. Quatre, d'ailleurs, sur ces six femmes, quatre siègent actuellement. Ça montre à quel point la société américaine change ou à quel point elle avait des progrès à faire et des barrières à franchir. Après, je viens de vérifier la composition du Conseil constitutionnel en France. Il y a trois femmes qui le composent, sinon on ne peut pas dire que ce soit un exemple de diversité. On se quitte avec un groupe qui s'appelle The Seasons. C'est un groupe canadien qui vient du Québec, qui n'a pas fait d'album depuis longtemps, qui s'est même séparé, je crois, mais qui a de très bons morceaux, dont celui-ci qui s'appelle Apples. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye.
You change from winter to the spring while I am sleeping beneath these apple trees of sorrow grown for me. I read the letters in your pocket, they say you're starving now. It's usually reckless to write something we don't mean. And I could say days, but you wouldn't
and
care.
Dark
I
away
see
from
those
my heart.
carvings in the tree we
I know
share.
that it is
All
all
of
of
the
the
moments
moments
that I spend with
I
you,
spend them
I
away from
suddenly
my
feel
heart.
that none of them were
I
true.
know the leaves are
falling for you.
Vous venez d'écouter Une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.